Chers auditeurs, après 49 ans d'épiscopat, dont 38 à Bayonne, Mgr Jean Dols meurt le 8 février 1681 à Ossès, dans la maison Arismendia qu'il y possédait. Son corps fut transporté à Bayonne et après les obsèques célébrées à la cathédrale, il fut enseveli sur place dans le monument des évêques. Le 30 mai suivant, le roi désigné pour lui succéder, Mgr Gaspard de Priélé. On pense que le nouvel évêque de Bayonne habitait Paris au moment de sa nomination. Ses bulles le disent né à Tarbes, de parents nobles, et qu'il était âgé de 50 ans. Il est certain qu'il avait des liens avec le sud-ouest. Il était abbé de Larreule, l'abbaye bénédictine béarnaise au diocèse de Lescar. Et il avait longtemps vécu et travaillé auprès de Mgr Vic, qui était archevêque d'Auch. Arrivé à Bayonne le 18 novembre 1682, il continua, sur le plan pastoral, le sillon creusé par Mgr Dols dans la ligne du Concile de Trente. C'est ainsi que le Concile avait décidé qu'un prêtre ne pourrait entendre les confessions s'il n'avait pas reçu un bénéfice paroissial, c'est-à-dire s'il n'était pas curé, ou bien s'il n'avait pas été juge apte à cette mission, au besoin après un examen, et s'il n'avait pas reçu une approbation donnée gratuitement, spécifie le Concile. Il semble que Mgr de Priélé soit allé même un peu plus loin que le Concile, car il fit examiner publiquement devant lui tous les confesseurs de son diocèse. Dans ses statuts, Mgr Dols avait pensé à la formation permanente des prêtres et il avait pour cela institué les conférences ecclésiastiques, ces réunions régulières des prêtres du doyenné où l'on devait discuter sur un sujet religieux. Mgr de Priélé va leur accorder beaucoup d'importance et veiller à leur régularité et à leur bon déroulement. En 1688, Mgr de Priélé publie une ordonnance dans ce sens. Sans doute avait-il constaté quelque négligence. En tout cas, il rappelait aux prêtres d'Itsassou, de Cambo, d'Espelette et de Soulaïde qu'ils devaient se réunir tous les mercredis chez le curé d'Itsassou. Il voulut également appliquer une directive du Concile de Trente qui faisait à l'évêque un devoir grave de visiter son diocèse. Il s'en acquitta, malgré les souffrances que lui infligeait la goutte. Il organisa également dans sa cathédrale une mission et en confia la prédication au père Capucin. Mgr de Priélé mourut le 19 juin 1688 au château de Peyrorade au cours d'un déplacement. Sa dépouille mortelle ramenée à Bayonne fit inhumer selon sa volonté à la cathédrale près du premier pilier à l'entrée de la grande porte et sa pierre tombale a été retrouvée il y a quelques années à l'endroit indiqué. Devait lui succéder Mgr Léon de Lalanne. Il était originaire de Bordeaux, où son père était président à Mortier du Parlement. Mgr de Lalanne avait été nommé par le roi en 1682, d'abord évêque de Dax. Mais il ne reçut jamais ses bulles, ni par conséquent la consécration épiscopale du moins à ce moment-là. Ce n'était pas qu'il fût indigne de l'épiscopat, mais c'était l'époque où les relations entre Louis XIV et le pape Innocent XI étaient pratiquement rompues en raison de la fameuse assemblée du clergé de 1682 où avaient triomphé les thèses gallicanes avec la rédaction et l'acceptation des quatre articles. Le pape refusait les nominations faites par le roi et 35 diocèses se trouvaient sans évêque consacré. En 1688, après un épiscopat qu'on peut dire simplement nominal de 4 ans à Dax, avec simplement des pouvoirs de vicaire général accordés par le chapitre, Monseigneur de Lalanne sera nommé par le roi évêque de Bayonne, diocèse qui était sans titulaire depuis 7 ans. Et Monseigneur de Lalanne va continuer à Bayonne pendant 4 ans, le mode de présence épiscopale inauguré à Dax. Louis XIV ayant fini par capituler, le pape envoya leur bulle aux évêques désignés et celui de Bayonne reçut les siennes le 10 mars 1692. Il fut sacré évêque le 24 août suivant à Paris. On ne connaît à peu près rien de son action pastorale à Bayonne, sinon qu'il était quelque peu porté à la chicane. Une attaque d'apoplexie l'emporta le 6 août 1700. Avant d'entrer dans le XVIIIe siècle, nous ferons une sorte de rétrospective sur la vie du diocèse de Bayonne au cours de ce XVIIe siècle qui s'achevait avec la mort de Monseigneur de Lalanne. Une chose est assez frappante, c'est le nombre de procès qui a marqué les relations des divers responsables ecclésiaux entre eux. Il ne s'agit pas de fausser les perspectives et de laisser penser que la vie du diocèse se réduisait à ces chicanes entre ecclésiastiques pourvus de bénéfices plus ou moins intéressants. Mais il ne s'agit pas non plus d'occulter cet aspect de la vie du diocèse. La cause de ces procès est à chercher, nous l'avons déjà dit, dans un droit bénéficial très complexe et souvent assez obscur, mais aussi dans la façon de rémunérer les divers acteurs de la vie des paroisses qui était très peu précise. Peu à peu, une jurisprudence va se dessiner et s'établir et les procès seront beaucoup plus rares au siècle suivant. Un des problèmes du diocèse de Bayonne était de savoir s'il devait ou pas payer au roi les décimes, c'est-à-dire les subventions annuelles accordées au roi par l'Assemblée du clergé de France et levées sur tous les bénéfices du royaume. Autrefois, Bayonne et Labourg dépendaient de la couronne d'Angleterre. Et la Basse-Navarre de celle de Navarre et n'avait pas à payer de décimes en France. La Basse-Navarre, si elle devait payer les décimes, acceptait de le faire mais au diocèse d'Oloron, au Béarn, et donc en Navarre, et non à l'étranger, c'est-à-dire à Bayonne. Le Conseil d'État renvoya la cause à l'Assemblée du clergé, lequel décréta que les ecclésiastiques banavarais devaient payer les décimes, puisque les Béarnais le faisaient depuis 1622, et les Labourdins également, puisqu'ils étaient bénéficiés en Basse-Navarre. Des difficultés entraînant des procès surgissaient entre les chanoines et les prébendiers. 4 de ces prébendiers, appelés demi-chanoines, prétendaient également à une demi-solde de chanoine, mais le chapitre ne l'entendait pas de cette oreille. Dans son procès devant le Parlement de Bordeaux, celui-ci donna raison au chapitre. Un autre procès, qui dura plus d'un an, mit aux prises les chanoines et le corps tout entier des prébendiers. Ces derniers demandaient une augmentation de leur rémunération. Celle qu'ils recevaient ne leur permettait pas de vivre décemment. Là encore, le Parlement donna raison au chapitre. Un peu plus tard, des difficultés surgirent entre les mêmes, non plus seulement pour des questions d'argent, mais également, et surtout d'ailleurs, à propos d'une sacristie que les prébendiers réclamaient pour eux seuls à la cathédrale. Le Parlement renvoya la question à l'évêque, lequel décida de désaffecter la chapelle de la Sainte Vierge et d'y installer la fameuse sacristie des prébendiers. Et d'ailleurs, on l'appelle encore aujourd'hui l'ancienne sacristie. Le chapitre, qui en droit était le curé de la paroisse de la cathédrale, nommait un chapelain majeur pour prendre en charge les responsabilités curiales. Ces chapelains majeurs, depuis longtemps déjà, cherchaient à acquérir une certaine autonomie, cherchaient à être vraiment curé et seul curé de la paroisse, ce qui a mené quelques difficultés et bien sûr, quelques procès. Parmi ces procès, nous retiendrons celui qui opposa Pierre de Chouriot, chapelain majeur et le chapitre, et que le Parlement renvoya pour sa solution à l'évêque de Bayonne, qui était monseigneur de la Lanne, lequel, dans sa sentence, précisa les droits et les devoirs de chacun en privilégiant quelque peu le chapelain majeur. Le chapitre avait également maille à partir avec certaines paroisses du Labour, bien sûr, pour des questions de dîmes, en particulier avec la paroisse de Sarre. Le fameux curé Achoulard y fut mêlé, et c'est avec lui qu'un accord fut conclu sur la répartition de ces dîmes. Accord qu'un de ses successeurs, Jean de Laralde, ne pouvait admettre et qui provoqua un long procès devant le Parlement de Bordeaux. C'était un personnage bien curieux que ce Jean de Laralde, originaire de Hasparren, où il avait fait construire une chapelle avec ses propres deniers. Il était brouillé à peu près avec tous ses paroissiens de Sarre, mais il voulait se préparer sérieusement à la mort. Et afin d'y penser tous les jours, il ne trouva rien de mieux que de disposer à l'avance son cercueil devant son lit et de placer à l'intérieur tout ce qui était nécessaire pour sa toilette funèbre. Tout était prévu également pour ses obsèques, même les textes du roi de l'Église qui permettaient d'être conduit dans l'Église de son choix pour son enterrement. Et il demandait à être enterré à Hasparren. Nous continuerons la prochaine fois cette rétrospective en parlant cette fois de la vie religieuse dans notre diocèse tout au long de ce XVIIe siècle.